La défaite du sens commun. La tâche que Whitehead a proposée pour la philosophie, souder le sens commun à l'imagination, communiquer directement avec ce qu'il considérait comme la faiblesse dangereuse, peut-être létale, du monde moderne. Les théories spécialisées se font gloire de disqualifier le sens commun, de le convaincre qu'il doit s'en remettre à l'autorité de ceux qui savent. La tâche de la philosophie peut se dire réactiver le sens commun. Car ce que nous connaissons n'est que le sens commun tel qu'il a été défait. Il y a bien des manières de raconter cette défaite. Certaines sont politiques. Ainsi, Gilles Deleuze avait proposé qu'entre la gauche et la droite, il existe une différence non de sensibilité ou de priorité, mais de nature. Alors que la gauche a besoin, vitalement besoin, que les gens pensent, la droite demande qu'ils acceptent une formulation des problèmes venus d'ailleurs, qu'ils se conforment à un ordre des choses auto-évident. Défaire le sens commun revient alors à rendre la rumination impuissante, à la séparer de toute capacité d'objecter contre cet ordre des choses, à la réduire à un imaginaire plaintif, rêvant le cas échéant à un monde où les gens ne seraient pas si égoïstes, irresponsables, influençables. Cependant, même si, pour paraphraser Leibniz, il y a du politique partout, tout ne peut se réduire à un registre purement politique. En tout cas, pas avant que la question n'ait les moyens de se poser effectivement de la sorte. Pas avant que ce registre politique lui-même soit devenu capable de prendre en charge une proposition comme celle de Deleuze, c'est-à-dire aussi de traduire dans ses propres termes ce que signifie « souder l'imagination et le sens commun ». Car il n'y a pas ici de petites économies. Pour beaucoup, la proposition n'aura aucun sens. Ou alors ils l'entendront immédiatement comme un appel à plier l'imagination aux conditions imposées par un sens commun qu'il faudrait respecter. Ainsi, que répondre aux physiciens qui protesteraient ? Mais si nous devions respecter le sens commun, ni la relativité einsteinienne, ni la mécanique quantique n'auraient jamais vu le jour. Et Galilée, comment aurait-il pu convaincre les gens que la Terre est en mouvement sans qu'ils s'en aperçoivent ? Mauvaise pioche. Remarquons-le que ce dernier argument. Si Galilée a publié en italien, et non en latin, son dialogue sur les deux grands systèmes du monde, s'il a conféré à un amateur éclairé, Sagredo, la charge d'arbitre dans sa polémique avec Simplicio, représentant de ses adversaires, c'est précisément parce qu'il misait sur l'alliance avec le sens commun contre l'autorité. Toujours est-il qu'au début du XXe siècle, les choses ont bel et bien changé. C'est la physique qui désormais fait autorité, et cette autorité se définit dorénavant comme révolutionnaire, détruisant les certitudes de ce qui, corrélativement, est caractérisé comme le sens commun. Étrange situation. Il vaut de le souligner car, pour que la physique se définisse comme le sens commun, elle a d'abord dû le définir pour son propre compte. En l'occurrence, par un étrange tour de passe-passe. Les certitudes qu'elle lui attribue ne sont autres que celles qui, avant les révolutions, caractérisait une vision mécaniste du monde. En d'autres termes, les gens doivent être convaincus qu'ils pensent naturellement dans les termes de cette physique qui est désormais définie comme classique, qu'ils avaient par exemple toujours adhéré à l'idée d'une réalité physique constituée de particules en mouvement, caractérisées chacune par une position et une vitesse bien déterminées. Beaucoup de pédagogie est nécessaire pour que ce qui a scandalisé les physiciens devienne un scandale qui nous concerne tous, que nous nous sentions tous concernés par l'annonce des physiciens, ce réel que nous avions tous en commun est voilé. D'autres sciences ont depuis pris le relais, définissant leur révolution ou leur pseudo-révolution sur le même mode. Ouvrez les guillemets, vous, le sens commun, croyez que. Mais nous savons désormais que. Fermez les guillemets. Tous les coups semblent ici permis. Un pli a été pris qui identifie le progrès avec ce qui scandalise le public. Pour ceux qui savent, le public est devenu un stock d'opinions et de croyances toujours prêtes à servir de faire valoir. Et les gens du commun ont pris le pli. Pour la plupart, ils ont accepté un rôle de spectateur passif. Ou du moins, c'était le cas il y a une vingtaine d'années, lors de ce qui a été baptisé la guerre des sciences, l'affrontement entre les scientifiques et penseurs critiques sous le regard ébahi de ces descendants des citoyens d'Athènes que l'on appelle aujourd'hui le public. Scène typique de cette guéguerre académique, un physicien furieux interpelle l'un de ces penseurs critiques. Ce peut être un philosophe, un sociologue, un spécialiste de ce qu'on appelle dans les pays anglophones les science studies, ou alors les cultural studies. Cela n'importe pas aux physiciens, car il ne s'intéresse pas à de telles différences. Ce qui compte pour lui est ce qu'il a perçu. Son interlocuteur était susceptible d'insinuer le poison du doute dans l'esprit de ce public quant au fait que les lois de la physique décrivent bel et bien la réalité. Il ne peut certes condamner ce nouveau Socrate à boire de la ciguë, mais ce qu'il propose n'a rien d'aimable. Si vous ne croyez pas aux lois de la physique, jetez-vous par cette fenêtre. Et le plus fort est que cela semble marcher. Le caractère quasi rituel de cette interpellation, je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai entendu ou lu ou subi, témoigne du fait que les physiciens y recourent en toute impunité, sans craindre apparemment que quelqu'un s'étonne. Vous voulez dire qu'avant Galilée et la loi de la chute des corps, on confondait allègrement les portes et les fenêtres ? Mais leurs adversaires pouvaient ne pas être en reste lorsqu'il s'agissait pour eux de déconstruire l'objectivité scientifique. L'un d'entre eux a même invoqué l'efficace éventuelle de la prière des passagers afin de contrer l'exemple des avions qui volent pris en tant que preuve de l'existence objective des lois de la physique. Lui non plus ne semblait pas nourrir la crainte qu'un croyant, aussi fervent soit-il, rumine et objecte qu'il ne choisirait jamais une compagnie qui remplace les techniciens par des cercles de prière et que ce n'est pas aux lois objectives de l'aérodynamique qu'il se fie lorsqu'il embarque, mais au laborieux travail de maintenance des avions, à la formation des pilotes, à la vigilance du contrôle aérien, etc. L'impunité, le fait qu'il n'est pas à compter avec le sens commun, rend bête ceux qui savent. La guerre des sciences a eu lieu dans un paysage dépeuplé. Les guerriers qui s'y affrontaient étaient définis par une situation de fait, ce que j'ai appelé la défaite du sens commun, et il ne s'agit pas d'une défaite sur un quelconque champ de bataille. Il n'y a pas eu à proprement parler de bataille, car lorsqu'il s'agit de ce qui intéresse effectivement les scientifiques, non pas le fait que les corps lourds tombent, par exemple, mais la matière dont peut se définir la variation de leur vitesse au cours de la chute. Le sens commun n'a ni arme, ni cause spécifique à défendre. C'est bien plutôt d'une défaite qu'il s'agit, d'une dissolution de la capacité d'objecter, voire même d'imaginer que ce que l'on sait puisse permettre d'objecter, ce qui signifie aussi la perte de ce sans quoi il ne peut y avoir de rumination. Car ruminer, c'est refuser, sourdement peut-être, sans nécessairement déployer un discours contradictoire. De perdre confiance dans la valeur d'une expérience, même si celle-ci est difficile à mettre en mots ou si elle est mise en difficulté par une théorie qui la disqualifie. Ce qui est défait est la possibilité d'un rapport de récalcitrance par rapport aux prétentions théoriques, à distinguer d'un rapport de méfiance par rapport aux théories elles-mêmes. La récalcitrance n'implique pas la méfiance, mais la capacité à apprécier positivement ce que propose une théorie sans lui permettre pour autant de nier ce qu'elle propose d'oublier ou de réduire aux apparences. C'est pourquoi à cette défaite du sens commun correspond l'arrogance ignorante dont tant de théories font montre, comme un gouvernail qui aurait perdu contact avec l'eau qui résiste, mais lui permet aussi de ne pas tourner fou, de maintenir un cap, c'est-à-dire ici, de résister à la bêtise. Whitehead aurait sans doute été saisi par la bêtise qui s'est déployée en toute impunité lors de cette guerre des sciences qui fait partie d'un passé non dépassé. L'écho médiatique s'est éteint, mais la guerre couve toujours. Il n'aurait cependant pas été étonné de l'opposition entre scientifiques et penseurs critiques. C'est même l'incapacité des penseurs critiques, depuis Hume et Kant, de bien parler de ce que les sciences célèbrent comme des réussites qui, pour lui, signe le devenir spécialisé de la philosophie. Lorsque la question « Que savez-vous ?» a été transformée en « Que pouvons-nous savoir ?», la philosophie s'est érigée en juge de l'expérience humaine, en censeur de ce que les humains, y compris les scientifiques, savent, même s'ils ne savent pas bien le dire. Les ruminations du sens commun ont été renvoyées à la confusion inhérente à des interrogations qui excèdent les limites bornant ce que nous pouvons légitimement prétendre savoir, ce que nous sommes en droit de savoir. S'il rumine, c'est qu'il divague dans le labyrinthe de ses croyances. Quant aux scientifiques qui prétendent avoir accès à la réalité, la critique tolère leur réalisme naïf. De son côté, écrit Whitehead, la foi scientifique s'est montrée à la hauteur des circonstances et a tacitement déplacé la montagne philosophique. Steven Weinberg, avant de devenir un protagoniste de la guerre des sciences, a bien exprimé le mépris amusé que lui inspirait la montagne philosophique. Ouvrez les guillemets. Ludwig Wittgenstein, qui niait jusqu'à la possibilité d'expliquer le moindre fait par référence à un autre, affirmait que, à la base de toute la conception moderne du monde, gît l'illusion que les prétendues lois de la nature sont les explications des phénomènes naturels. De telles mises en garde me laissent froid. Dire cela à un physicien, c'est dire à un tigre en quête de proie que toute chair est herbe. Que nous autres scientifiques ne sachions pas expliquer, avec l'approbation des philosophes, ce que nous faisons quand nous cherchons des explications, ne signifie pas que nous nous livrions à une tâche oiseuse. Les philosophes pourraient nous aider à comprendre ce que nous faisons, mais, avec ou sans eux, nous continuerons à le faire. » Fermez les guillemets. Weinberg ironise. Mais il n'est pas furieux. De fait, les scientifiques et la plupart des philosophes ont toujours été d'accord sur l'essentiel. Les sciences témoignent pour la rationalité humaine. Tout a changé lorsque la critique a cessé d'être respectueuse, lorsque certains penseurs critiques ont expliqué les conséquences de la déconstruction à laquelle ils procédaient. Ouvrez les guillemets. Si la nature est étrangère à votre accord quant à l'ordre que vous y déchiffrez, c'est donc que cet accord est purement humain. C'est vous, les scientifiques, qui vous mettez d'accord et la manière dont vous le faites ne diffère pas de celle qui prévaut pour tout autre accord humain. » Fermez les guillemets. Exit la rationalité. Et cela sans que la remplace un intérêt réel pour les matières multiples dont les humains sont susceptibles de s'accorder. Lorsque le critique affirme que la science n'est qu'une pratique comme les autres, c'est le « ne que » qui compte. Comme tout ce qui prétend fonder les autres accords pratiques, le verdict des faits n'est que la résultante de rapports de force. Ce que la guerre des sciences a fait apparaître est que le sens commun n'est plus désormais qu'une opinion publique influençable qui pourrait se laisser séduire par une telle proposition. Les critiques, au lieu de susciter l'ironie des scientifiques, ont été accusées de favoriser son irrationalité. Le relativisme, l'idée que toutes les pratiques se valent, même celles des charlatans ou des peuples dits primitifs, est soudain devenu une menace monstrueuse. Il semble que la perte d'autorité des lois de la nature, car c'est toujours à elles, c'est-à-dire à la physique théorique que l'on en revient, quitte à ajouter l'évolution darwinienne pour pouvoir désigner de vrais ennemis, les créationnismes, soit synonyme de déchaînement de l'arbitraire. Rien ne ferait obstacle aux passions les plus irrationnelles. Tout serait permis. Chacun sa vérité, même les partisans de la Terre plate. Bref, il est désormais admis que les gens, ces descendants des citoyens d'Athènes, ne sont plus susceptibles de s'interroger, de ruminer. Ce que Whitehead nommait « le sens commun » n'est plus ce avec quoi l'on doit compter ou ce sur quoi on le peut. Que l'homme de la rue ou l'habitant des campagnes se trompe, cela va désormais de soi. C'est même la seule chose qui fasse l'unanimité parmi les spécialistes. Mais les gens font désormais plus que se tromper. Ils sont accusés d'être prêts à suivre le premier démagogue venu. Ils ont donc besoin de bergers. Et pour dénoncer les mauvais bergers, tous les coups sont permis, puisque les gens sont disposés à croire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, cette caricature a pris vie et a fait irruption sur la scène politique, ou plus précisément électorale, la seule scène où la démocratie représentative lui donne le droit de faire entendre sa voix. Tout se passe comme si la défaite du sens commun, devenu incapable de ruminer, ou même de se formaliser de la situation qui lui est faite, tête à claque ou faire valoir pour toutes les prétentions théoriques, avait assez soudainement accouché du monstre qu'évoquaient les scientifiques contre ceux qu'ils traitaient de relativistes. Et bien sûr, face à la propagation éhontée des fake news, des alternatives trousses, face à l'indifférence déterminée ou à la méfiance virulente envers des faits pourtant bien établis, on peut être tenté de régler des comptes d'il y a 25 ans. Ouvrez les guillemets. Vous voyez bien le relativisme, l'attaque contre l'autorité des faits qui devrait nous mettre d'accord. C'était l'autorisation donnée à la montée de l'irrationalité. Nous avions raison et vous avez permis à un horrible génie de sortir de sa bouteille. On peut interpréter ce qui arrive de divers points de vue. Le rôle des réseaux sociaux, évidemment. Mais aussi l'évidence vécue de ce que le progrès auquel on nous a demandé de croire a disparu de l'horizon. Ou les propagandes de désinformation de tout ordre. Mais invoquer l'image d'un public qui confirmerait son irrationalité foncière et donnerait raison à la thèse selon laquelle il doit faire confiance à ceux qui savent, sans quoi il se croira tout permis, me semble négliger la nouveauté redoutable de l'événement. Ce qui me frappe est que celles et ceux qui se défendent des fake news ou autres alternatives trousses semblent moins manifester une aveugle crédulité qu'une sombre volonté de ne rien entendre, de prendre leur revanche contre ceux qui savent. Qui eût cru que Donald Trump, lors de sa campagne électorale, aurait pu impunément déclarer que même s'il tuait quelqu'un en pleine 5e avenue, cela n'empêcherait pas ses partisans de voter pour lui. Mais ceux-ci ont sans doute bien compris pour leur part que Trump leur donnait l'occasion réjouissante de scandaliser encore un peu plus l'élite bien-pensante. Et si ce qui surgit manifestait sur un mode particulier ce désastre politique et culturel que j'ai appelé la défaite du sens commun? Je ne peux m'empêcher ici de penser à Bertolt Brecht, lorsqu'il écrivait « On parle toujours de la violence du fleuve qui déborde, beaucoup moins de celle des digues qui l'enserrent. » Il pensait certes aux violences révolutionnaires, au peuple dans la rue, non à ces foules qui applaudissent avec passion les énoncés les plus outranciers, les plus ouvertement absurdes, qui découvrent qu'elles-mêmes comptent, puisqu'elles font peur à ceux qui savent. Mais les fleuves qui débordent peuvent être différents, la violence des digues est similaire. On ne fait pas sentir impunément à ceux à qui on avait enjoint de faire confiance que leurs raisons de s'indigner face aux promesses non tenues sont nulles et non avenues. On n'humilie pas impunément. La réponse des partisans de Trump et des autres, ailleurs, qui repoussent comme mensonges et complots tout ce qui leur demande de penser, ne doit pas occulter qu'il existe des réponses radicalement différentes au mirage du progrès, des réponses qui, elles, produisent de la pensée récalcitrante et mettent à l'aventure les raisons qui étaient censées convaincre. De plus en plus nombreux parmi les descendants des citoyens d'Athènes sont celles et ceux qui ne ruminent plus, mais n'en tournent pas sots pour autant. Ils savent ce contre quoi ils résistent lorsqu'ils protestent dans les rues, fauchent les champs contaminés, c'est-à-dire des champs où se cultivent des OGM, campent dans des zones à défendre, partent en grève contre les redéfinitions objectives, c'est-à-dire comptables, qui détruisent le sens de leur métier, ou alors se consacrent à des pratiques thérapeutiques alternatives dont ils éprouvent les bienfaits, quoi que puisse objecter l'expertise fondée sur les faits. Dans tous les cas, ils mettent en question la définition de l'objet à laquelle les experts réfèrent leur autorité, non pas avec la violence de ceux qui refusent d'entendre, mais avec l'intelligence de ceux qui ont appris à entendre. Ce qu'ils contestent est la manière dont cette définition implique qu'abstraction soit faite de savoir, valeur, qui leur importe. Ce dont ils exigent la prise en compte sont les interdépendances multiples, intriquant humain et non humain, dont les experts demandaient l'oubli, et qu'eux-mêmes avaient le plus souvent pris l'habitude d'oublier. Penser à partir de la défaite du sens commun, c'est résister à la tentation de dire que les premiers, qui rompent les digues, qui ont décidé de ne plus rien entendre, de se rendre sourds à ce qui le ferait douter, sont les mauvais, alors que les seconds, les activistes, sont les bons. Ils sont tous issus d'un même désastre. En revanche, nous pouvons prendre parti pour la manière dont les uns donnent sens à ce désastre contre celle des autres. Et c'est ce que je ferai, mais en me souvenant, en tant que philosophe, que nous ne sommes plus dans les rues d'Athènes. Ceux qui luttent ne demandent sans doute pas à la philosophie de les aider à élucider ce qui les fait lutter. Les philosophes n'ont pas ouvert la voie aux activistes, ils bénéficient plutôt de ce que leur apprennent celles et ceux qui s'activent. Et ce que les philosophes peuvent apprendre, c'est ce que pourrait signifier politiquement la soudure de l'imagination et du sens commun. Les savoirs qui s'activent le font sur le mode de la résistance et de la lutte, ce qui leur donne importance et pertinence, mais ce qui peut faire également leur vulnérabilité. Leur faire, par exemple, revendiquer la légitimité du concret face à l'usurpation de l'abstrait. Certes, la lutte contre l'emprise de définitions donnant autorité à un savoir objectif est justifiée lorsqu'elle s'adresse à l'ennemi. Mais la force propre des activistes est d'accepter l'épreuve de la question « comment ne pas ressembler à l'ennemi ?» Ce qui implique « comment ne pas attribuer à une vérité que l'on dira concrète le pouvoir de mobiliser, tous unis à la manière de bons petits soldats ?» Comment, en d'autres termes, faire du « nous » qui lutte, non ce qui est réuni par un savoir enfin véridique, mais ce qui se tisse et s'enchevêtre à mesure que se discernent les interdépendances entre raisons de résister ? De ce point de vue, le refus déterminé des OGM en Europe est un cas exemplaire de réussite. si les OGM, issus des laboratoires, avaient conservé leur définition d'innovation porteuse d'avenir, témoignage de la capacité de l'homme à maîtriser la nature, nous ne savons que trop bien ce qui en aurait suivi, lorsque les conséquences de leur usage agricole seraient devenues indéniables. Le maintien de la synonymie entre OGM, définie dans les termes abstraits qu'autorise la définition expérimentale, et OGM en plein champ, aurait prévalu alors même que les conséquences lient ces derniers à ceux qu'ignorent les premiers. Mis sous brevet, usage accru des pesticides avec leur impact sur la biodiversité et la santé, prolifération de nuisibles, mauvaises herbes, insectes, champignons, etc., devenus résistants, les conséquences économiques, écologiques ou agriculturales auraient été constatées, acceptées, déplorées et ou gérées, mais sur le mode d'effet secondaire d'une innovation rationnelle et bénéfique. Ce scénario a été déjoué même dans les régions du monde où les OGM se sont imposés, parce que ceux et celles qui, en Europe, s'y sont opposés, ont su tisser leur raison de résister, soudure de l'imagination et du sens commun. Isolées, revendiquant pour elles-mêmes la vérité qui légitime la lutte, du combat contre l'accaparement capitaliste par la mise sous brevet à la défense de la nature ou alors de la santé, chaque raison aurait été faible, identifiable à un refus idéologique du progrès. Mais l'imagination, le devenir sensible aux raisons des autres leur ont permis de faire sens en commun de ce que signifiaient les OGM dans les champs, et cela sur un mode qui fait bégayer les experts. L'imagination, une fois activée, est contagieuse. Aujourd'hui, au-delà du refus des OGM, la question de ce que peut signifier une agriculture durable fait penser, imaginer, lutter.